bon pour la Terre, c'est tout de suite avec France Nature Environnement. Bonjour.
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 Aujourd'hui, on va vous parler du bassin de la Durance qui alimente 3 millions de personnes en eau potable. Mais d'abord, une petite présentation de l'association. Donc FNE04, c'est la Fédération départementale des associations de protection de la nature et de l'environnement dans le département des Alpes de Haute-Provence. En tant que fédération, notre rôle, c'est de former, d'informer et de représenter les associations locales environnementales, c'est-à-dire porter la voix de toutes nos associations adhérentes auprès des pouvoirs publics, des élus, des médias et autres représentants de la société civile. FNE04 fait partie du mouvement national FNE et du réseau régional FNE en PACA. Créé en 1973, nous agissons donc depuis 50 ans pour la défense de notre environnement dans tout le département, grâce à l'implication de nos bénévoles, jeunes en service civique, des jeunes en stage et des salariés. Donc aujourd'hui à l'antenne, je suis avec Pierre Gotardi, le président de FNE04, et moi-même je suis chargée de projet chez FNE04. Aujourd'hui, Pierre, on va parler du Sage Durance. Donc déjà, une petite introduction. Face aux tensions croissantes sur la ressource en eau du bassin de la Durance, il a été décidé de manière collégiale d'élaborer un schéma d'aménagement et de gestion des eaux, donc le Sage. Un état des lieux complet du bassin a été réalisé en 2025, mobilisant deux commissions thématiques, eau et qualité, et inondation, morphologie et biodiversité, appuyé par des comités techniques associant l'ensemble des acteurs et experts du territoire. Les documents produits ont été validés par les commissions, puis par la commission locale de l'eau, la CLE, en janvier 2026. Aujourd'hui, avec Pierre, on vous propose une lecture critique de cet état des lieux et on va vous présenter les principaux enseignements du diagnostic.
Le bassin de la Durance, par ses caractéristiques naturelles et ses aménagements hydrauliques, réalisés au fil du temps, a longtemps été considéré comme relativement préservé des tensions majeures sur la ressource en eau. Grâce à une gouvernance historiquement structurée et une gestion organisée des barrages et des canaux, le territoire a su répondre aux besoins de développement des usages socio-économiques que sont la production hydroélectrique, l'irrigation, l'alimentation en eau potable des villes côtières, l'industrie et le tourisme. Et ce, au bénéfice de son bassin versant, mais aussi plus largement, du territoire régional. Il faut savoir que 75% de la richesse régionale dépend directement ou indirectement de l'eau issue du système Durance-Verdon.
Et Pierre, est-ce que tu peux nous faire, s'il te plaît, un petit état des lieux de l'état du bassin de la Durance ?
Alors, la situation du bassin de la Durance, comme je l'ai dit, a été longtemps considérée comme relativement abondante en eau. Et aujourd'hui, elle est fragilisée. Certains sous-bassins versants, qu'on appelle dans notre jargon déficitaires, connaissent déjà une vulnérabilité marquée avec des restrictions d'usage récurrentes en période d'étiage. La diminution d'enneigement, la baisse progressive de la ressource disponible et les besoins accrus en période de canicule accentuent la pression sur l'ensemble du système actuel et génèrent des tensions entre les usages et les usagers de l'eau. Sur le territoire déficitaire, les objectifs de restauration des débits d'étiage dans les cours d'eau aujourd'hui ne sont pas atteints. Malgré les économies d'eau engagées depuis plus de 20 ans, la sécheresse exceptionnelle 2022 a montré que le système reste vulnérable. Sur les territoires déficitaires, des programmes d'action qu'on appelle des plans de gestion de la ressource en eau ont été engagés depuis une dizaine d'années, mais malheureusement, toutes ces initiatives, si elles ont permis d'économiser de l'eau, n'arrivent pas à atteindre les objectifs d'économie nécessaires. Le modèle actuel, fondé sur le transfert et le stockage de l'eau, présente des fragilités, inégalités d'accès, forte dépendance aux réserves constituées, pression sur les milieux, difficulté de mesurer l'impact réel des économies réalisées. Les projections climatiques annoncent une baisse durable des débits, surtout en été, avec des sécheresses plus fréquentes, des tensions accrues entre usages et des risques pour la qualité de l'eau. Dans ce contexte, le territoire ne peut plus considérer la ressource comme acquise. Il lui faut donc anticiper sur ces évolutions de ressources, arbitrer entre les usages et les bénéficiaires et s'adapter au changement climatique. L'objectif du SAGE est donc de construire collectivement une stratégie d'adaptation fondée sur la sobriété, la modernisation des usages, la gestion partagée et la préservation des milieux, tout en intégrant les enjeux climatiques et la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Donc c'est comme ça qu'est né le SAGE. Mais alors, qui le pilote, ce SAGE ?
Le SAGE a trois acteurs principaux. Le préfet coordonnateur du bassin, donc qui est le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, qui a été désigné par le préfet lui-même de la région Rhône-Alpes. Le Parlement de l'eau, qui est la clé, la Commission locale de l'eau, qui a un véritable parlement, qui a un pouvoir donc, de créer du droit. Et le SMAVD, qui est le syndicat mis aménagement de la vallée d'Adurance, qui est la petite main qui rédige aujourd'hui le document sur la base des cogitations et des réflexions de la clé. En effet, il est primordial que les acteurs du bassin s'impliquent pour élaborer une stratégie partagée qui prenne en compte les spécificités du bassin, les interdépendances, les besoins des milieux et les réalités socio-économiques. Donc le SMAVD a mis au point un outil de modélisation qui s'appelle C3PO, sur lequel la clé peut s'appuyer. Il permettra en effet de simuler les effets des stratégies proposées et d'apprécier la robustesse des solutions envisagées, donc à partir des consommations d'eau actuelles, élaborer des scénarios intégrant les différentes valeurs du réchauffement climatique. Donc c'est un travail de modélisation qui permet de faire des choix et de tester des solutions. Ce travail collectif, en complémentarité avec les démarches nationales, régionales et locales, vise à construire une gestion adaptée à notre territoire, fondée sur la connaissance, la concertation et l'anticipation.
Donc le SAGE, c'est un outil de planification à échelle du territoire, mais il ne faut pas le confondre avec les contrats de milieu qui, eux, sont des outils de mise en œuvre.
Tout à fait. Le SAGE, c'est un outil de planification, comme je viens de le dire, alors que les contrats de rivière, comme on a eu contrats de rivière Bléone, As, Durance, Buèche et autres, sont des contrats qui mettent en œuvre les actions. Donc le SAGE, pour définir la stratégie d'adaptation, il devra articuler sobriété, modernisation des usages. Alors le terme de modernisation peut faire sourire. Donc modernisation des usages par des investissements et des évolutions des pratiques, adaptation progressive des modes de gestion partagés et préservation des milieux. Cette sobriété devra se décliner dans la politique économique régionale qui devra aussi s'inscrire dans une démarche globale de réduction des émissions à effet de serre dont on sait que c'est le moteur du changement climatique.
Donc, juste, on va un petit peu parler des caractéristiques de ce bassin de la Durance, parce que le SAGE, il est appliqué sur le bassin de la Durance. Pierre, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous faire un petit état des lieux, enfin, nous décrire un petit peu qu'est-ce que c'est que le bassin de la Durance ?
Alors, le bassin de la Durance se partage habituellement en trois parties. C'est-à-dire que la haute Durance, c'est-à-dire ce qui est à l'amont du barrage de Serre-Ponçon, où là, on a des torrents alpins avec des fortes pentes, forts charriages, des crues. On a encore de la neige et quelques glaciers résiduels. Après, la moyenne Durance est entre Serre-Ponçon et la Clue de Mirabeau. Donc, on a là des rivières qui prennent leur naissance dans les montagnes, mais qui sont beaucoup plus basses et qui ont des régimes plutôt liés à la pluie aujourd'hui. Et donc, ce sont des zones de confluence avec des vallées largement agricoles, d'où les besoins en eau pour l'irrigation notamment. Et puis, la basse Durance, à partir de la Clue de Mirabeau jusqu'au Rhône, où là, on a une grande plaine alluviale. Pareil, cultivé, aménagé, industrialisé, où les besoins en eau sont très importants. Ces caractéristiques naturelles associées aux aménagements hydrauliques conditionnent aujourd'hui la disponibilité de l'eau et les équilibres entre usage et milieu.
Donc, on va faire une petite première partie où on va parler qualité et quantité de la gestion en eau. Donc, d'abord, Pierre, au niveau des aspects quantitatifs, est-ce que tu peux nous dire un peu qu'est-ce qui est utilisé comme eau ?
Alors, la Durance et ses affluents produisent en moyenne 4,8 milliards de mètres cubes d'eau par an. Mais cette ressource présente une forte variabilité interannuelle. Alors, les statistiques montrent qu'on oscille plutôt entre 2 et 7 milliards de mètres cubes d'eau selon les années hydrologiques.
Et qu'est-ce que ça représente, ce volume d'eau de 4,8 milliards de mètres cubes ?
Alors, 4,8 milliards, c'est 4 fois la capacité de Serre-Ponçon quand le barrage est plein.
Ok.
Voilà. Donc, à cette variabilité interannuelle s'ajoutent des effets déjà perceptibles du changement climatique. La ressource en eau de surface est également très influencée par les aménagements hydrauliques et la gestion des barrages, des canaux et les réseaux de transfert conditionnent la répartition de l'eau entre les différents usages et entre les différentes parties du territoire.
Ok. Donc, parlons un peu de ces usages, justement. On dit qu'à Marseille, on boit de l'eau de la Durance. Donc, déjà, est-ce que c'est vrai ? Et ensuite, qui est-ce qui se sert dans la Durance et pour quelle utilité ?
Alors, c'est vrai qu'à Marseille, on boit l'eau de la Durance à travers un canal qui s'appelle le canal de Marseille, qui amène l'eau jusqu'au cœur de la ville de Marseille. Alors, les principaux usages, alors d'abord, on a l'hydroélectricité, c'est-à-dire que EDF, qui est concessionnaire des aménagements sur la Durance et le Verdon, en fait, turbine pratiquement toute l'eau qui tombe dans le bassin versant. Donc, on a 4,5 milliards d'eau qui sont dérivés chaque année dans le canal EDF et qui alimentent les différentes usines du bassin versant. Donc, on a en gros 22 usines entre la Durance et le Verdon. Et en fait, en même temps qu'ils turbinent l'eau, ils acheminent l'eau vers les différents usages. Sur ces 4,5 milliards de mètres cubes, on a 40% des volumes qui sont dérivés dans le canal EDF à travers les prises d'eau des canaux latéraux. Donc l'eau rentre dans les canaux EDF, en fait elle est redistribuée dans les canaux latéraux pour être apportée dans les différentes parties de la région. Donc on a à travers ces canaux l'irrigation qui est alimentée, mais aussi l'eau potable, et puis l'industrie à travers les réseaux de distribution. Il faut savoir que l'eau potable de Marseille, donc c'est l'eau de la Durance, il faut savoir que toute la côte entre Toulon et Cannes est alimentée par le canal de Provence, qui est de l'eau qui vient cette fois du Verdon. Moins d'un quart de ce volume est exploité jusqu'à l'exutoire, puisqu'il y a trop d'eau douce qui arrivait dans l'étang de Berre. Et donc, en fait, l'usine de Saint-Chamas ne travaille que très peu, finalement, par rapport à ce qu'elle pourrait produire. La production électrique de la chaîne Durance-Verdon est extrêmement importante au niveau national, parce que, d'abord, c'est de l'électricité verte, décarbonée, et elle peut être mobilisée dans un délai extrêmement court, puisque la chaîne Durance-Verdon marche dans un délai de 10 minutes. Quand on appuie sur le bouton, 10 minutes plus tard, la chaîne est en plein fonctionnement. Alors, il reste dans la rivière les débits réservés, réglementaires. Les volumes laissés dans la rivière sous forme de débits dits réservés représentent de l'ordre de 5% des volumes moyens de la rivière.
Donc, ça veut dire, Pierre, qu'on peut prendre jusqu'à 80% de l'eau de la rivière.
95%. Oui,
pardon.
Tout à fait. C'est la loi.
OK.
Alors, en général, ce débit, il est modulé sur l'année. On laisse un petit peu plus à certaines périodes, notamment pour les besoins des espèces migratrices. Mais effectivement, en moyenne, on prélève entre 92 et 95% de l'eau.
Et du coup, ce n'est pas l'agriculture qui a la plus grande utilisation de la ressource de la Durance.
Non. La première, donc, c'était l'hydroélectricité. C'est le deuxième. L'agriculture prélève en moyenne 1,5 milliard de mètres cubes chaque année pour environ 120 000 mètres cubes et hectares irrigués à l'échelle régionale. Elle mobilise essentiellement la ressource stockée. Donc, l'eau pour l'agriculture est prélevée directement dans le réservoir de Serre-Ponçon. Sur le bassin de la Durance, en fait, il y a seulement 200 millions de mètres cubes qui sont effectivement consommés par les cultures. Et tout le reste, les 700 millions, retournent par infiltration ou restitution dans les territoires, dans les nappes ou directement dans la rivière. Donc on a un phénomène de recyclage de l'eau qui peut être utilisée plusieurs fois.
Et donc en troisième position, c'est l'eau potable.
C'est ça. Après donc l'irrigation, c'est l'eau potable qui mobilise à peu près 360 millions de mètres cubes d'eau par an, principalement à partir des ressources souterraines locales, donc dans le bassin, et des ressources stockées en surface pour les territoires situés hors du bassin. Il faut bien distinguer les communes qui sont dans le bassin de la Durance, qui prélèvent l'eau là où elles sont, et puis les communes qui sont à l'extérieur, donc Marseille et toute la côte d'Azur, qui prélèvent dans les canaux qui eux-mêmes sont alimentés par les canaux EDF.
Et quand tu dis les ressources souterraines locales, tu parles bien des nappes phréatiques. Et oui. Donc ça veut dire qu'elles sont considérées comme appartenant au bassin de la Durance.
Oui, les nappes phréatiques sont alimentées par l'eau qui descend, l'eau qui vient de la rivière ou qui vient des pluies. Et donc elles font partie du bassin versant de la Durance. Voilà. Simplement, dans d'autres bassins, on a un régime un peu particulier. C'est-à-dire que contrairement au niveau national, on est essentiellement alimenté par des eaux souterraines, puisqu'on a l'avantage d'avoir des nappes, et on n'a qu'un tiers d'eau de surface, alors qu'au niveau national, c'est l'inverse.
Et qu'est-ce qu'il en est pour le tourisme et l'industrie alors ?
Alors l'industrie prélève des volumes relativement modestes à l'échelle du bassin versant, même si ces 50 millions de mètres cubes d'eau par an sont très importants au niveau de la valorisation économique. elles viennent à 90% des ressources stockées, c'est-à-dire elles viennent essentiellement du canal, des canaux qui sont dérivés, notamment le canal de Marseille. Le tourisme et les loisirs, par contre, sont très présents parce qu'on a des rivières qui sont extrêmement séduisantes. On a des grandes retenues, donc Serre-Ponçon, mais aussi Sainte-Croix, Castillon, sur le Verdon. Et donc, on a beaucoup d'usages différents. On a la pêche, on a les sports d'eau vive, les activités nautiques, notamment sur les lacs, mais aussi la baignade. Alors, par ailleurs, il y a un usage un petit peu particulier, c'est la neige artificielle qui mobilise des volumes relativement faibles à l'échelle du bassin versant, puisqu'on est à entre 2 et 3 millions de mètres cubes d'eau par an. Mais ça peut être un enjeu localisé très important, puisque aujourd'hui, sans neige artificielle, on a du mal à avoir des couches en début de saison. Et donc, ça permet de maintenir des retombées économiques liées aux activités, notamment de ski.
Et donc, dans cet état des lieux, le SAGE définit les volumes d'eau liés au tourisme comme étant à la fois la consommation d'eau potable, les activités sportives et donc la neige artificielle.
Tout à fait. Voilà. On considère effectivement que le tourisme génère des consommations plus fortes en matière d'eau potable, éventuellement liées au rejet dans les stations d'épuration, et puis à ce volume de neige artificielle qui, finalement, représente pas un gros volume, mais dont le prélèvement, s'il est fait directement dans les milieux de l'hiver, peut impacter très fortement dans la mesure où les rivières, l'hiver, ont très peu de débit, elles sont souvent prises en gel. Donc il y a toujours nécessité d'avoir des volumes tampons qui permettent d'éviter les prélèvements directs dans la nature.
Et puis il y a aussi les enjeux l'été, parce que donc, au niveau de l'été, en cas de sécheresse, comme il y a beaucoup de tourisme, c'est une période avec une forte sollicitation. Donc ça peut être... ça peut être un enjeu aussi assez important. Juste en deux mots, comment ça se fait, le partage de l'eau sur le bassin ?
Alors, le partage de l'eau dans le bassin de la Durance repose sur un système aménagé très ancien, puisqu'on a des canaux qui datent du haut Moyen-Âge, hein, où les usages et les milieux sont fortement interdépendants. Les territoires reliés au système Durance-Verdon bénéficient d'importantes réserves d'eau stockée dans les barrages, notamment à Serre-Ponçon et les retenues du Verdon, pour sécuriser les usages, en particulier l'agriculture. En contrepartie, des débits minimums sont maintenus en aval des barrages pour préserver les milieux aquatiques. Ce fonctionnement très structuré par les aménagements soulève aujourd'hui la question de son adaptation face aux enjeux actuels.
Donc, petite précision, les économies d'eau qui sont réalisées sur les infrastructures de transfert, ça ne signifie pas qu'il va y avoir une augmentation des quantités d'eau qui sont laissées dans la rivière. Ça reste dans l'aménagement Durance-Verdon. Donc il y a seulement les économies qui sont faites sur les volumes prélevés qui vont avoir un impact sur la rivière.
Oui, enfin, c'est l'inconvénient du système, c'est-à-dire dans la mesure où les canaux sont alimentés par les retenues, on lâche les débits, mais si les gens ne prennent pas leur dotation pour une raison ou pour une autre, en fait, les volumes libérés restent dans le canal EDF. Voilà. Il n'y a que dans les petits bassins versants adjacents, comme l'Asse, le Buèche ou la Bléone, quand on fait des économies, là, effectivement, l'eau n'est pas prélevée, donc elle reste dans la rivière. Mais sur le bassin principal, en fait, à partir du moment où l'eau elle est dans le canal EDF, elle reste dans le canal EDF. Elle n'est pas relâchée.
Et donc, ça implique qu'une même goutte d'eau, elle peut être mobilisée successivement par plusieurs usages. Donc déjà, elle peut être conduite dans le canal EDF, elle peut être turbinée pour la production hydroélectrique, elle peut être prélevée dans le canal EDF pour alimenter un réseau d'irrigation, ne pas être utilisée directement par les plantes, s'infiltrer, recharger la nappe, puis être de nouveau captée, finalement, pour être consommée en eau potable.
Exactement. C'est le cas, par exemple, de la nappe de l'Acro, qui est alimentée par des canaux gravitaires qui permettent de faire pousser du foin, le foin de l'Acro, qui a une AOC, et l'eau s'infiltre. Et en fait, aujourd'hui, les industries et les communes pompent dans la nappe de l'Acro, donc de l'eau qui a déjà été turbinée et qui est arrivée jusque chez eux par les canaux. Voilà. Ces retours au milieu ne satisfont pas nécessairement les besoins écologiques des cours d'eau, malheureusement, pour assurer leur fonctionnalité, notamment les exigences des espèces piscicoles selon les saisons et les différentes phases de leur cycle de vie. Voilà. Par ailleurs, la connaissance des nappes souterraines du bassin de la Durance, parce qu'on a des nappes profondes, ça c'est donc les eaux souterraines, c'est un petit peu différent des nappes d'accompagnement des cours d'eau ou des nappes phréatiques. Hein. Donc la connaissance de ces nappes est encore très partielle et hétérogène. La nappe alluviale de la Durance en particulier a un fonctionnement fortement influencé par l'irrigation des terres agricoles. Sa recharge en eau dépend à peu près de 50% de cette réalimentation indirecte via les eaux d'irrigation transférées depuis le canal DF et qui, non consommées directement par les plantes, s'infiltrent dans le sol. L'influence de cette recharge des projets d'aménagement qui touchent aux canaux gravitaires doit être prise en compte pour garantir l'équilibre quantitatif des nappes conservées. C'est-à-dire que quand on a des projets d'aménagement qui visent éventuellement à diminuer les apports d'eau, il faut effectivement savoir quel impact ça va avoir sur l'équilibre quantitatif des nappes concernées. On peut imaginer que, par exemple, la nappe de la Croix, si on apporte beaucoup moins d'eau, bien, on aura beaucoup moins de recharge dans la nappe. Donc, on peut avoir, à terme, des soucis d'équilibre par rapport aux usages aval.
Et alors, comment elle est gérée, la sécheresse, à l'échelle du bassin versant? Et comment est-ce qu'on peut faire une règle unique pour tous, finalement?
Alors, le principe est général et l'application est, est totalement détaillée. On n'a pas de règle unique, en fait. On a deux dispositifs. Donc un dispositif au niveau de la Durance qui s'appelle un arrêté cadre interdépartemental qui prévoit des mesures de réduction en fonction des niveaux dans le bassin de Serre-Ponçon qui pilote en fait la consommation, y compris agricole. Et donc, comme les canaux de basse Durance sont réunis dans une commission exécutive qui a été instaurée par l'État, la CED analyse les besoins et fait bouger donc les débits qu'elle dérive en fonction des nécessités d'économie à faire sur la réserve.
Ça signifie donc que les territoires qui sont situés en amont des réservoirs, donc en haute Durance, ou sur les affluents de la moyenne Durance, ils dépendent en fait de leurs propres ressources locales. Donc, ils sont plus vulnérables aux périodes de sécheresse.
Tout à fait. Et donc, pour ces bassins, on a des dispositifs qui sont spécifiques. Donc, en cas de crise, on a donc des mesures d'économie qui sont demandées par le préfet. Et en parallèle, pour travailler à améliorer l'équilibre, donc ont été mis en place des plans, le plan de gestion de la ressource en eau, qui fixent des volumes prélevables et qui ont permis d'engager des plans d'action locaux avec des évolutions des systèmes de distribution d'eau. Et l'objectif, c'est de tendre vers le maintien de débits favorables au milieu, ce qu'on appelle les débits d'objectifs d'étiage. Cependant, ces ambitions restent difficiles à atteindre pour des questions d'argent, pour des questions de disponibilité de la ressource elle-même et de survie des agriculteurs.
Enfin, on termine sur les enjeux quantitatifs et après on passe aux enjeux qualitatifs.
Oui, il faut être conscient qu'aujourd'hui, la ressource diminue. Donc, pour avoir travaillé pendant très longtemps sur l'eau, on s'aperçoit qu'en fait, les filières agricoles évoluent très très lentement. Et malheureusement, aujourd'hui, le changement climatique nous met une certaine pression. Et si on ne se débrouille pas pour adapter en profondeur les modes de production, on n'arrivera pas à réduire durablement notre dépendance à l'eau d'irrigation. Et c'est un enjeu crucial face à l'accélération du changement climatique.
Est-ce qu'on peut... Je vais te poser deux questions sur les enjeux qualité avant qu'on fasse la pause musicale. Mmh. Donc déjà, on a beaucoup parlé de quantité d'eau. On n'a pas parlé qualité d'eau, donc est-ce qu'elle est de bonne qualité, la Durance?
Alors, globalement, l'eau de la Durance est de bonne qualité grâce à de gros efforts d'assainissement dans les collectivités, même si on peut toujours améliorer la situation. Alors, on a des problèmes historiques liés à des pollutions industrielles. Donc, on a par exemple des pollutions agricoles sur le plateau de Valensole. On en parle régulièrement avec un pesticide lié à la lavande. On a aussi le site Arkema, Château Arnoux, qui depuis 1907, pratique la chimie du chlore avec des problèmes de pollution souterraine. Hein, et donc, et y compris d'ailleurs, dans certains cas, des impacts sur les eaux superficielles. Voilà. La résorption de ces pollutions est longue et coûteuse. Et le territoire reste exposé à d'autres risques liés notamment aux sites industriels résiduels avec des pipelines, des transformatières dangereuses et notamment d'anciennes décharges ou d'anciens terrils d'activités passées. Les réseaux de transfert qui sont à l'air libre accentuent également le risque de propagation rapide des polluants en cas d'incident ou d'accident.
Et pour les nouvelles pollutions qui sont mises en évidence en France?
Mais on est... Comme tous les bassins, on est confronté à l'apparition de pollutions émergentes, notamment les nouvelles molécules de pesticides, les micropolluants, les résidus médicamenteux, sur lesquels on travaille très peu aujourd'hui. Et puis on a les substances de type PFAS qu'on trouve aussi chez nous comme ailleurs.
On va faire une petite pause musicale et on revient.
qualité d'une vie moins terre à terre. Nous sommes des êtres vivants, chahutés par moments, fragiles et émouvants.
Voler, voler, voler vers un diamant solidaire, une route imaginaire, bordée, bordée, bordée de résine à la lisière et de fleurs d'une sincère beauté, beauté, beauté. Nos visages qui s'éclairent.
Nous sommes des êtres vivants, chahutés par moments, fragiles et mouvants.
Des êtres vivants, chahutés par moments, sensibles et chancelants.
Caché, 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 la vie comme un grand mystère, une énigme, un caractère, trempé, trempé, trempé.
Mais vers où coule la rivière? Dans quel sens, quel hémisphère? Chercher, 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 nos deux corps dans la lumière.
Nous sommes des êtres vivants, chahuté par moments, fragile et émouvant.
Et nos cœurs qui accélèrent, soudés, soudés, soudés,
rêve d'un espoir, d'une première,
d'une île, d'un itinéraire, d'un soleil que l'on espère briller, 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 d'un espoir, d'une première,
d'une île, d'un itinéraire.
Nous sommes des êtres vivants, chahutés par moments, fragiles et émouvants. Des êtres vivants, chahutés par moments, sensibles et chancelants.
Bonjour, vous êtes toujours avec FNE04, France Nature Environnement des Alpes de Haute-Provence, et je suis avec notre président Pierre Gotardi pour parler du SAGE, schéma d'aménagement de la gestion en eau. Et là, on va aborder la partie sur l'impact du changement climatique sur la disponibilité et les usages de l'eau. Donc déjà, le bassin de la Durance, il a longtemps été considéré comme étant relativement à l'abri des tensions majeures, notamment avec une ressource abondante, des aménagements structurants. Et aujourd'hui, on fait face à de nouveaux défis qui sont liés au changement climatique. Déjà, on pense à l'épisode exceptionnel de 2022, qui a montré finalement que l'ensemble du bassin, qu'il soit relié ou non aux aménagements, il reste exposé aux crises. Alors, Pierre, comment ça se traduit, le changement climatique, sur ce bassin ?
Alors, les projections climatiques régionales montrent en moyenne une augmentation significative des températures avec plus 2 à plus 3 degrés d'ici le milieu du siècle et voire 4 à 5 en fin de siècle. En gros, les horizons 2050-2100. Une forte augmentation de l'évapotranspiration et des besoins en eau de toute la végétation qui implique une baisse des débits des cours d'eau, soit 10% pour un réchauffement moyen, voire 20 à 30% pour un réchauffement fort. Avec des sécheresses estivales plus fréquentes, donc multipliées par deux, hein, deux fois plus fréquentes, pour un réchauffement moyen, et trois, voire quatre fois plus souvent, avec un réchauffement fort. Des étiages plus marqués, avec une baisse de 30 à 40% des débits estivaux, pour un réchauffement moyen, voire 50 à 60 pour un réchauffement fort et des périodes de sécheresse estivale plus longues. Une baisse continue de l'enneigement diminuant de 1 à 2 mois selon la latitude dans un scénario de réchauffement moyen, voire 2 à 3 mois dans un scénario de réchauffement fort. Et bien sûr, une fonte de neige plus précoce et une réduction de la période d'enneigement. Une évolution de la recharge des nappes avec des étiages estivaux plus longs et plus sévères, une augmentation de la consommation des plantes et l'évolution des pratiques d'irrigation vont impacter les flux circulant vers la nappe et perturber les mécanismes de recharge, donc potentielle baisse d'infiltration issue de l'irrigation gravitaire avec des eaux exportées.
Donc, en résumé, on a les années anormalement sèches aujourd'hui qui deviendraient fréquentes, voire ordinaires, et on a aussi les années humides ou avec un nombre de jours de neige important qui deviendraient de plus en plus exceptionnels. Ce qui veut dire que le changement climatique, il vient bouleverser les équilibres historiques, il accentue la variabilité de la ressource et la fréquence des situations de tension, ce qui impacte chaque usage isolément, mais ça renforce aussi les interdépendances entre usage et milieu. Ça veut dire que ça complexifie aussi l'arbitrage à opérer pour garantir la satisfaction des besoins de tous et surtout la préservation des milieux aquatiques.
Tout à fait. La maîtrise des risques liés à la qualité et à la gestion durable des ressources en eau est un enjeu renforcé par le changement climatique qui perturbe la disponibilité de l'eau, qu'il s'agisse des eaux de surface ou des mécanismes de recharge des nappes. Cela incite également à mieux connaître et protéger les potentialités des eaux souterraines pour garantir leur rôle stratégique dans l'avenir.
Et du coup, comment est pris en compte l'évolution du climat ? Parce qu'on a une augmentation des besoins hydriques des cultures à certaines périodes, une accentuation de la sécheresse des sols, un stress thermique accru lors des épisodes de chaleur intense. Et pourtant, il y a certaines cultures qui jusque-là étaient non irriguées qui nécessitent désormais un apport en eau.
Oui, les efforts pour réduire les prélèvements agricoles continuent, mais leur mise en place peut être freinée par des contraintes techniques et financières. La variabilité de l'eau interannuelle exige des systèmes agricoles plus résilients, capables de gérer les périodes sèches sans nuire aux années plus favorables. Il est aussi important de mieux comprendre l'impact de l'irrigation sur les nappes tout en préservant l'écologie des rivières.
Et concernant les autres secteurs tels que le tourisme ?
Alors, le développement du tourisme lié au milieu aquatique est exposé à une vulnérabilité croissante face à la baisse globale de la ressource en eau. La forte variabilité interannuelle des conditions hydrologiques impacte, selon les années, les niveaux d'eau dans les lacs de barrages en période estivale ainsi que les débits des rivières. La baisse de l'enneigement accentue également cette fragilité. Ces évolutions peuvent générer des tensions saisonnières accrues et affecter l'attractivité touristique des territoires, principalement en Haute-Durance. C'est l'agilité des modèles économiques face aux années plus difficiles, par l'anticipation des effets sur les activités et la préservation de l'attractivité des destinations qui constituent des enjeux pour ce secteur.
Et donc, on le sait, le réchauffement climatique modifie progressivement aussi les conditions de vie des espèces aquatiques. On pense par exemple aux quantités d'eau, aux températures, à l'oxygénation des eaux, à la nécessité d'accès à des zones de refuge lors des épisodes de sécheresse ou des fortes chaleurs. Et les effets combinés de la modification de l'hydrologie, de la température et de la qualité d'eau sur la capacité des espèces à s'adapter ou à se maintenir dans le bassin de la Durance, c'est aujourd'hui encore trop peu évalué. Et donc, tout à l'heure, tu parlais de l'outil de modélisation C3PO. Est-ce qu'il permet de simuler les effets des scénarios du changement climatique proposés aujourd'hui ou pas ?
Oui, le modèle C3PO a permis de simuler un premier exercice prospectif qui est « Que se repasserait-il si les conditions climatiques de 2050 ou 2085 s'appliquaient aujourd'hui ?» Hein, c'est-à-dire qu'on modélise les besoins actuels avec le climat futur. Cet exercice à vocation pédagogique a montré que sans évolution des prélèvements et des règles de gestion, l'ensemble des usages et des milieux pourraient être affectés. Ces constats invitent à s'interroger sur la manière dont le territoire pourra concilier sobriété, sécurisation des usages, préservation des milieux dans un contexte de ressources plus contraintes.
Et donc, cette réflexion, elle doit aussi intégrer les dimensions stratégiques comme la gouvernance, les besoins d'expertise, les connaissances et surtout un financement pérenne des politiques de l'eau et de l'atténuation des déséquilibres territoriaux. Alors, comment est-ce qu'on va s'en sortir, Pierre ?
Alors, afin d'apporter des réponses adaptées à cette situation à l'échelle du bassin durancien, le territoire a décidé de s'engager d'engager la démarche collective d'élaboration du SAGE à partir de la connaissance collective, à travers la Commission locale de l'eau, d'utiliser l'outil de modélisation, donc C3PO, pour simuler différents scénarios d'évolution de la ressource et des usages, et disposer d'une base objective pour éclairer les choix d'adaptation à l'échelle globale du bassin. Les prochaines étapes de travail seront consacrées à la construction, à la concertation et à l'évaluation de scénarios d'adaptation, mobilisant l'ensemble des acteurs du territoire afin de tendre vers une gestion durable, équilibrée et partagée de la ressource en eau. Et dans ce cadre, FNE04 souhaite pouvoir disposer de données précises sur l'impact du changement climatique dans les différents sous-bassins versants et bassins adjacents qui sont non réalimentés. Puisque dans ces bassins-là, on sait que la ressource va encore diminuer, il va falloir s'adapter et s'adapter encore. La question de la soutenabilité des modèles actuels de production et de consommation des différentes catégories d'usagers devra être clairement posée face à une réduction forte de la ressource.
Alors, on aurait aimé vous parler très en détail du risque inondation, mais ça demanderait une émission à part entière. Donc, juste, on voulait vous dire que le bassin versant de la Durance, il est composé donc de nouveaux sous-bassins qui s'étendent des territoires de montagne où le régime des rivières est plutôt pluvio-nival jusqu'à un secteur soumis à un climat typiquement méditerranéen, et que la diversité des paysages et des conditions climatiques fait que le territoire, il est exposé à une grande variabilité de phénomènes hydrologiques. Voilà. Donc, un petit mot juste. La maîtrise des risques, qui est liée à la qualité et la gestion durable des ressources, c'est un enjeu qui est renforcé par le changement climatique. Ça va perturber la disponibilité de l'eau, qu'il s'agisse des eaux de surface ou des mécanismes de recharge des nappes. Et c'est important de mieux connaître et protéger les potentialités des eaux souterraines si on veut vraiment garantir leur rôle stratégique à l'avenir. Voilà. On reviendra pour parler du risque inondation plus en détail et des forces du territoire face à ces risques. Mais là, on va plutôt parler morphologie de la Durance et puis on terminera sur la biodiversité. Alors, le bassin versant de la Durance, il est connu pour sa diversité de contextes géographiques et hydrologiques. Déjà, on a d'un côté les hautes vallées alpines où on retrouve les torrents à forte pente et les phénomènes de lave torrentielle. Puis après, on a les plaines alluviales de la basse Durance avec des larges lits en tresse et des zones de méandres. Les rivières en tresse, ça constitue quand même une singularité à l'échelle nationale, voire européenne. C'est une morphologie dynamique et c'est dû au transport de gravier et de galets. Ces graviers et galets sont issus de l'érosion des reliefs alpins et du fonctionnement torrentiel des affluents. Alors, Pierre, est-ce que tu peux détailler ?
Alors, les rivières en tresse, c'est une particularité des rivières du pied de massifs montagneux. Donc, ce fonctionnement naturel a été profondément modifié par les interventions humaines, puisque les rivières à fort charriage nécessitent un grand lit. Et donc, comme il y avait des matériaux disponibles, eh bien, effectivement, les humains, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait des extractions massives de matériaux, ils ont endigué la rivière pour récupérer des terres, et puis il y a les aménagements hydroélectriques, notamment le barrage de Serre-Ponçon et la chaîne donc, d'usine EDF derrière, qui ont généré des réductions de largeur du lit, le reboisement des versants qui a été fait à l'époque au 19e siècle par les eaux et forêts donc, a notablement modifié aussi les conditions d'écoulement. Donc, ces actions ont eu pour effet de perturber le transit sédimentaire, d'inciser ou d'exhausser localement les lits, de figer certains tronçons et de modifier la dynamique des crues et des dépôts.
Et alors, ces problèmes, comment est-ce que ça se traduit sur le territoire ?
Eh bien, pour chacune de ces anthropisations, on a un problème spécifique qui apparaît. Les barrages bloquent totalement le transit sédimentaire, par exemple, qu'il soit grossier ou qu'il soit fin. Ils modifient l'équilibre morphologique de la rivière. En aval, la capacité de transport solide est fortement réduite, ce qui entraîne une accumulation de matériaux aux confluences et une nécessité de curage fréquent. L'accumulation de matériaux aux confluences, non repris par la Durance du fait de la baisse des débits, accroît le risque d'inondation et d'engravement localisé. Les prélèvements massifs de matériaux sur l'ensemble du bassin ont provoqué des incisions généralisées dans le lit de la rivière, pouvant atteindre jusqu'à 4 mètres. À Digne, c'était presque 5 mètres. Voilà. L'endiguement, les remblais et l'urbanisation ont réduit la largeur des lits actifs, passant par endroits d'une largeur de lit de plusieurs centaines de mètres à moins de 50 mètres. C'est un exemple de la Durance au Mai. Les campagnes de reforestation ont permis de limiter l'érosion des versants et les risques associés, très dommageables au XIXe siècle, mais ont aussi réduit la bande active, c'est-à-dire la zone où la rivière promène ses cailloux, entraînant une tendance à l'incision des lits. Sur certains affluents, comme le Buëch ou la Bléone, la bande active a été divisée par 2, voire 5 en un siècle, avec une transition de tresse, donc de rivière en tresse, vers une rivière à lit unique, avec une incision généralisée.
Et concrètement, quels sont les risques associés à ça ?
Alors, on a plusieurs, dans différents domaines, au niveau des risques naturels, donc on a effectivement des risques d'inondation, des risques d'érosion, des risques d'engravement, des affouvements de berges, la submersion de certaines zones, aggravées par la dynamique morphologique et les interventions humaines. En matière de biodiversité et de paysage, la morphologie façonne les habitats aquatiques et rivulaires. Et donc, elle conditionne la connectivité écologique et la diversité des milieux. Les tresses, avec les bancs de gravier et les annexes hydrauliques, sont des habitats majeurs pour la faune aquatique et rivulaire. Et le changement climatique, donc les projections indiquent une augmentation des épisodes extrêmes et des risques de bouleversements morphologiques associés, une variabilité accrue des apports solides et des incertitudes sur la dynamique générale future des lits.
Et donc, quand on comprend un peu la complexité des équilibres qu'il y a à trouver, on a l'impression que c'est le transport sédimentaire qui joue un rôle primordial dans le fonctionnement morphologique de la Durance.
Tout à fait. Et c'est pour ça qu'il est primordial de restaurer un fonctionnement morphologique équilibré. Et pour ça, il faut gérer les excédents de matériaux, maintenir ou restaurer des espaces de mobilité, poursuivre l'amélioration de la transparence des barrages à certains moments pour libérer les matériaux, réduire la vulnérabilité des enjeux, mieux documenter la morphologie, développer des suivis morphologiques, acculturer les acteurs, parce que les gens, quand ils voient des cailloux, ils estiment que c'est pas bon, prendre en compte les spécificités des sous-bassins et enfin intégrer le changement climatique.
Donc tous ces objectifs, ils sont recevables et pertinents, mais qu'est-ce qu'il en sera de la réalisation concrète ? Parce qu'aujourd'hui, on a une ressource qui diminue, et financement public lié à la protection ou la restauration des milieux aquatiques également. Donc,
C'est l'objectif d'un SAGE, de fixer les priorités et des orientations d'action, voire d'en faire des règles qui s'appliquent aux collectivités concernées. On peut imaginer qu'il y a des règles, puisque le SAGE peut imposer des règles qui entraînent une absence de construction ou des mesures de gestion d'espace pour laisser la rivière s'étaler. La biodiversité du bassin est exceptionnelle, accueillant une part majeure de la biodiversité régionale, mais elle dépend étroitement de la fonctionnalité des milieux aquatiques et humides, aujourd'hui fragilisés.
Et parlons-en justement de la biodiversité. Parce que, donc, du cœur des Hautes-Alpes jusqu'aux plaines de la Durance, du plaine de la Provence, la Durance et ses affluents, ils traversent une variété de paysages et d'écosystèmes. On a justement les rivières en tresse, la ripisylve qui est essentielle à la vie et à la circulation des espèces. On a aussi les zones humides d'une grande diversité. Et cette biodiversité, elle a une influence, enfin, elle est liée à l'influence alpine et aussi à l'influence méditerranéenne. Ce qui fait qu'on peut accueillir de nombreuses espèces, dont certaines sont rares. Est-ce que, Pierre, tu peux développer un peu à ce sujet ?
C'est justement le fait d'être aux confins du climat méditerranéen, du climat alpin et des climats un peu plus tempérés, qui fait que le territoire accueille plus de 3200 espèces végétales recensées et près de 6000 espèces animales, soit près de 3/4 de la biodiversité régionale, et près de la moitié de la biodiversité française pour certains groupes. Parmi elles, plus de 1200 qui sont des espèces rares, menacées ou protégées, dont environ un tiers plus spécifiquement liées aux milieux aquatiques et humides, qui trouvent ici un refuge vital. Les cours d'eau et milieux humides de notre territoire jouent un rôle clé de réservoir de vie, essentiel pour la reproduction, la migration, la survie de nombreuses espèces aquatiques, mais aussi terrestres, qui bénéficient de ces milieux. La biodiversité du territoire durancien n'est pas seulement un trésor pour les naturalistes, elle est également un patrimoine au service de tous. Elle reflète la santé des milieux dont nous dépendons. Des milieux diversifiés et fonctionnels assurent des processus naturels comme le maintien d'eau fraîche, la régulation des flux, la stabilisation des berges, la filtration des polluants, autant de mécanismes discrets qui conditionnent à long terme la qualité de la ressource en eau et les coûts liés à sa gestion. La biodiversité participe aussi à la beauté des paysages, à l'attractivité touristique et à la qualité de la vie.
Alors, comment agir à travers le SAGE pour conforter ou réparer cette biodiversité ?
De nombreuses actions sont déjà menées et vont être menées sur le territoire pour préserver la biodiversité. On restaure la mobilité du lit, on réhabilite et on préserve des zones humides, on limite les pollutions, on essaie de garantir des débits suffisants avec l'évaluation des débits biologiques, on essaie de renforcer la connectivité écologique entre les milieux, avec la mise en place de stratégies d'ensemble et de plans de gestion cohérents, par exemple sur le rétablissement de la continuité piscicole. Donc il faut savoir qu'il y a déjà plein de choses qui sont en cours. Et donc cette dynamique d'action constitue un atout majeur pour relever les défis de préservation, de restons et d'adaptation du territoire face aux mutations en cours. Mais les niveaux d'avancement sont très variables d'un bassin à l'autre en fonction de l'argent disponible et des capacités financières. Donc les niveaux d'avancement sont très divers et les démarches volontaires sont portées notamment par les ambitions du SDAGE, alors le schéma directeur Rhône-Méditerranée qui donc préconise un certain nombre d'actions à l'échelle du bassin du Rhône, va se décliner aussi dans le cadre du SAGE Durance.
Donc pour résumer, préserver et restaurer les corridors écologiques et notamment les ripisibles, les zones humides connectées et les mosaïques des milieux aquatiques fonctionnels, c'est une priorité pour garantir la résilience des milieux et pérenniser les populations face aux mutations climatiques et hydrologiques.
Oui, tout à fait. Dans un contexte où le territoire durancien constitue un véritable hotspot de biodiversité, le maintien de ce patrimoine unique à l'échelle régionale et nationale représente une responsabilité majeure pour le territoire. Préserver cette biodiversité, c'est pas seulement protéger les espèces, c'est permettre au milieu de rester fonctionnel et résilient. Les équilibres à long terme dépendent de notre capacité à préserver ces habitats et les aspects du territoire. Elle est un gage de notre capacité à s'adapter durablement aux évolutions climatiques. C'est donc un axe central du futur SAGE et FNE 04 veillera à la prise en compte à tous les niveaux de cette biodiversité exceptionnelle.
Donc aujourd'hui, avec Pierre, on vous a présenté l'état du bassin de la Durance validé par le SAGE. La phase de travail qui s'ouvre à la clé, ça sera donc de déterminer la stratégie et orientation prioritaire des actions et on vous donnera rendez-vous pour parler de l'avancement de ces travaux. Est-ce que je peux faire un point actualité de l'association pour finir ?
Oui, tout à fait, Elsa.
Alors, donc, chez FN204, on a plein de choses qui se passent en ce moment. Déjà, dans moins de 3 semaines, ça va être les élections municipales. Donc, à cette occasion, on a établi une liste de 19 actions qu'on invite, les candidats à se saisir pour les intégrer à leur programme. Le but, c'est d'être sûr que le vivant a sa place au cœur de la vie politique locale. Ensuite, on a la campagne au feu qui va débuter début mars jusqu'à début avril avec un webinaire de lancement le 2 mars. Le but, c'est que les citoyens recensent les brûlages de déchets verts qu'ils observent via l'application Sentinelle de la Nature. Et nous, ça nous permet d'avoir des données statistiques pour ensuite aller accompagner les collectivités pour les aider à proposer des alternatives à ces brûlages. On a aussi la visite du bâtiment de la turbine de Manosque qui est prévue le 21 mars. Ça sera l'occasion de parler eau, mémoire et vie. On a la formation Alpatou qui arrive le 17 et 18 avril à Sisteron. Donc le but, ça sera de sensibiliser les bénévoles aux chiens de protection de troupeaux. Et enfin, si jamais vous souhaitez vous engager, si vous avez envie de devenir bénévole ou juste découvrir qu'est-ce qu'on fait au quotidien chez FN204, on vous donne rendez-vous à notre assemblée générale qui aura lieu le 28 mars à Pierrevert. Merci.
Merci Elsa, merci Pierre. Et donc à très bientôt avec vos rendez-vous et puis sur Fréquence Mistral aussi bien sûr. On retrouvera cette émission en ligne. Merci, bonne journée, au revoir.
Merci beaucoup.
Au revoir.